Radio Angoulême, dans la chambre d'Alain.
Alors non, mesdames et messieurs, vous écoutez bel et bien le balado de Marc Tessier et Jean-Dominique Leduc. Vous ne êtes pas à Radio Détente Cité Rock ma tante. Cette introduction est le fruit d'Alain Chevarier, qu'on reçoit à l'émission, accompagné de Mark McGuire, les auteurs de l'album Le Géant, au pied d'argile. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Bonsoir. Bonsoir. Fait. Nous tenons cet épisode là où nous logeons, Marc, Alain et moi. Donc, en fait, on reçoit Marc.
Oui, c'est ça. Marc est notre invité spécial ce soir.
Voilà.
Merci pour l'accueil.
Il va faire la vaisselle.
Alors, c'est la fin du jour 2 d'Angoulême.
Oui.
Dans notre cas, le jour 1, en fait, du festival officiel. Et donc, on s'est dit, pourquoi ne pas terminer cette journée productive autour d'un bol de peanuts avec deux invités de Marc. Alors, messieurs, merci beaucoup de vous prêter à l'exercice d'être nos invités. Alors, on a parlé précédemment avec votre éditeur européen, Frédéric Lavard, aux éditions Sarbacane, qui a tout dernièrement publié votre album en Europe, Géant au pied d'argile. Donc, félicitations, messieurs.
Merci.
Et c'est intéressant parce que Marc Tessier, tu as piloté cet album-là aux éditions Moelle Graphique à l'époque. Enfin, piloté.
Pas piloté. Je pense que Marc et Alain l'ont piloté. Moi, j'ai été comme j'ai joué le rôle d'éditeur au sens où je les ai aidés à finir puis rendre ça encore meilleur. Tu sais. Fait que ça a été tout un plaisir de travailler avec eux autres. Puis je suis tellement content de voir le succès que cet album, que moi je portais dans mon cœur. Puis j'ai pas trouvé qu'au Québec, il y a eu la reconnaissance qu'il méritait. Non. Mais à l'extérieur du Québec, ben wouhouhou!
Oui, parce qu'il faut le dire, l'album a fait l'objet d'une traduction aux États-Unis. Une diffusion, un album qui a été bien reçu.
On a été bien accueillis par l'éditeur américain. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'amour pour le livre, fait que ça a vraiment été agréable de travailler avec eux. Maintenant, on n'a aucune idée des ventes, on ne sait pas quelle a été la réception en termes du lectorat, mais on devrait le savoir bientôt.
Avec, en plus, faut-il le préciser, une préface de Joe Holman dans l'édition anglophone.
Ben, donc, américaine.
Américaine, oui, voilà. Mm.
Parce qu'il faut dire que ce livre-là, on l'a écrit en anglais au départ. Parce que Marc étant surtout à l'aise en anglais, nos conversations se faisaient en anglais, puis l'écriture du livre a été faite en anglais. Mm-hmm. Puis ensuite, c'est Marc Tessier, ici présent, qui a fait la traduction, sur laquelle je suis repassé pour être sûr que ça correspondait à notre vision. Puis c'est cette version originale qui a été présentée à Mad Cave Studio. Puis la version française qui a été présentée à Moelle Graphique et à Sarbacane qui l'a pris tel quel.
Oui, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas cherché à ajuster le niveau de langage pour un public européen, ils l'ont pris tel quel.
Oui, c'est ça qui est vraiment chouette parce que dans le livre, il y a une page qui dit traduit et édité par Marc Tessier, puis c'est le langage québécois, c'est une histoire qui passe à Montréal. Donc nous, on est très fiers qu'ils ont accepté tel quel. En fait, d'après moi et Alain, c'est un peu comme une provocation un peu au public français. Voilà un livre de Montréal dans le québécois. Mm. Puis il y a des lecteurs et lectrices qui trouvent ça vraiment beau, fascinant, ils font des découvertes. Mais il y a d'autres qui sont... ils trouvent ça un peu difficile au début de plonger dans le livre.
Tu parles d'une critique, là?
Il y a quelques-uns qui ont mentionné le fait que le québécois, le français québécois, pouvait être un obstacle. Il y a une des critiques qui a dit qu'il était passé par-dessus puis qu'il était très content, et l'autre pour qui ça a été problématique. Après ça, les gens, c'est des blogs, c'est des gens qui donnent leur opinion sur un livre, mais qui n'ont pas nécessairement
Mais c'est quand même incroyable quand on pense que tous les albums français et belges qu'on reçoit, que nous autres, on prend leur langue et on dit on n'a rien à dire.
Ouais.
Non seulement ça, mais aussi, ne perdons pas de vue, messieurs, que la série Paul de Michel Rabaglietti est diffusée en Europe depuis plus de 20 ans.
Ouais. Mais je pense que c'est une attitude par rapport aux Français en France, où il y a encore beaucoup de gens qui croient que le français parlé en France est le vrai français, et puis que toutes les anciennes colonies parlent un français qui n'est pas le vrai français, qui devrait suivre l'exemple, au lieu de se rendre compte que le français parlé ailleurs est enrichi d'autres expériences, d'autres influx culturels qui le rendent vivant. Et si on parlait tous le même français, ce serait une langue morte. Il y a juste le latin que tout le monde parle de la même façon parce qu'il n'évolue plus. Donc, le français évolue et il évolue géographiquement, c'est-à-dire à l'endroit où il est parlé.
D'ailleurs, pour l'anecdote, cet après-midi à la salle de presse à l'Hôtel de Ville, je partageais l'espace de travail avec deux journalistes français. Et quand ils m'ont vu sortir le micro, ils étaient un peu dubitatifs, et ils m'ont demandé « Mais c'est pour quel média? » « Ah, je dis, c'est pour un balado. » Et là, j'ai vu dans leur regard qu'ils n'avaient aucune idée de quoi je parlais. Je dis « Ah non, un podcast. » Ah, ils m'ont fait « Ah oui, ben c'est chouette, balado. C'est joli, balado. » Ben oui, c'est joli, balado. Puis c'est un mot français. Donc voilà. Ouais, mais pour me faire comprendre, j'ai dit podcast.
Ouais.
Ben, Jean-Christophe Menu, même chose, hein, dans nos échanges courriels. Balado, il n'y avait aucune idée de ce que ça signifiait. Ouais.
Les Français ont tellement de mots anglais, tu sais. Mm. On a même un peu plus, on a mangé un quick burger aujourd'hui, tu sais. Mais ça, c'est belge, mais c'est en France.
Ouais. Oui, mais ça, faut pas le dire aux Français, parce qu'ils sont convaincus que c'est français, quoi, que c'est belge.
Par contre, moi qui ai les pieds des deux bords de la clôture, étant à la fois naturalisé français et grandi québécois, une chose par rapport à... Qu'est-ce qu'on disait déjà?
On parlait de la langue, puis des mots anglais.
Ça, les anglicistes, je pense, en France, ils se sentent tellement pas menacés par l'anglais qu'ils peuvent rajouter n'importe quelle sauce dessus, ça va jamais détruire pour eux le français. Tandis qu'au Québec, on est en position toujours de danger constant, de se faire avaler. Alors, je comprends qu'on soit beaucoup plus pointilleux qu'eux. Parce que eux, de dire podcast, ça changera. C'est pas une pente descendante vers une anglification totale de la France. Ils sont tellement pleins d'eux-mêmes des fois que. Puis je le dis en tant que français, je comprends très bien. Le français, c'est le français. Et ça s'en, dans leur tête, ça s'en ira jamais.
D'ailleurs, messieurs, vous avez participé il y a 2 ans avec votre livre à l'événement Shoot the Book à Angoulême, pour rester dans la thématique.
Dans la thématique, oui.
Alors, où vous disposiez de quelques minutes pour proposer, en fait, pour résumer votre album devant une salle de gens du milieu de l'industrie du cinéma, donc.
Puis ils ont passé en dernier. Fait que c'était ça passe, ça casse. Parce que toutes les autres avant, il y a les slick présentateurs, représentants Mediatoon, comme un monsieur, il a passé 3 fois. Ben, la pression montait. Fait qu'ils étaient les derniers. Fait que c'était. Mais en même temps, je trouvais que c'est là que tu peux sortir tes as.
Et c'était une première, hein, pour la bande dessinée québécoise, je pense.
Je pense que Shoot the Book, c'est la première fois qu'il faisait ça aussi.
Non, en fait, Voleur de Sandwich.
Ah oui! Présenté, de Patrick Doyon. Ouais.
Exact.
Ouais.
La Pastex était présentée avant nous. C'est un livre de jeunesse, je crois.
Okay. Oui, c'est André Sirois et Patrick Doyon. Ouais, ouais, ouais.
C'est mon voisin à Montréal.
Mais t'es tellement cosmopolitain, Mark. Tu es le voisin de tout le monde, c'est fou. Hein? Et comment c'était justement, puis toi, Alain, qui vient quand même du milieu de l'audiovisuel, de présenter votre projet de bande dessinée à une salle de producteurs potentiels pour l'adapter au petit ou au grand écran, qu'est-ce que ça représentait pour vous, ça?
C'est sûr que j'aime beaucoup le cinéma, la télé, l'idée de raconter des histoires avec des images qui bougent, c'est fantastique, mais pour moi, c'est pas tant le médium importe, mais l'important, c'est de raconter l'histoire. Et vu qu'on avait déjà, on a déjà fait le travail de raconter cette histoire-là, ça enlevait une pression. C'est pas obligé d'être un film pour exister. L'histoire existe déjà. Tout ce qu'on peut faire, c'est espérer qu'une version qui soit cinématographique ou en tout cas qui sont en images mouvantes, permettent de raconter, d'aller plus loin que ce que nous, on a pu faire avec la bande dessinée. Parce que, veux, veux pas, notre capacité de raconter l'histoire, comme dans n'importe quel médium, avait des limitations qui sont souvent économiques. J'avais pas un budget limité, au contraire, j'avais un tout petit budget, j'avais une durée de temps limitée pour faire le travail, ce qui fait que des choses qu'on aurait voulu dire ou voulu faire, on a été obligé de les mettre de côté parce que je serais encore en train de dessiner en ce moment avec pas de paye. Alors ça c'est pas possible. Tu sais, j'ai plus 20 ans, j'ai deux enfants, c'est pas possible.
Et c'est drôle parce qu'aux États-Unis, pourtant, c'est un modèle d'affaires. Et il y a même des auteurs, des scénaristes qui en ont fait un art. Et là, je pense notamment à Mark Millar qui a scénarisé... Alors, écoutez, je suis tellement fatigué.
Il fait des BD, mais il n'a pas scénarisé comme Kingsman.
Kingsman, c'est... Oui, c'est ça, mais...
Mais ce n'est pas lui qui a écrit le scénario.
Non, sauf que ses albums... Kick-Ass, voilà. Kick-Ass, à la base, c'est une série de comics. Sauf que quand on lit Kick-Ass et quand on lit Kingsman, on sent vraiment cette volonté éventuel de vendre ça et de capitaliser là-dessus dans une adaptation. Et donc, lui, entre autres, il a fait sa carrière là-dessus. Là. Il avait même fait une autre série qui a été un flop avec des super-héros dont le titre m'échappe. Mais bref, cet auteur-là, à lui seul, a bénéficié de 3 adaptations à l'écran, de 3 séries différentes.
Mais nous, surtout moi, j'ai commencé avec l'idée de faire un film avec cette histoire. Un film documentaire hybride, peut-être avec la participation de ma famille. Mais pour plusieurs raisons, c'était difficile d'avoir mon frère, ma mère, mon père devant une caméra. Mm. Donc j'ai opté un balado, podcast. J'ai travaillé là-dessus pour un bout. Puis à un moment donné, j'ai croisé Alain dans un gymnase pendant une activité avec nos enfants. Puis il m'a montré ses tableaux. Il est l'artiste visuel. Puis aussi, il travaille dans le cinéma. Mm. Mais on avait l'idée de travailler, de faire un film. Puis moi, j'ai vécu au Japon, là où l'idée d'une Holy Trinity est très présente. Ça veut dire manga, série dessin animé, après film fiction ou série au télé. Mm. Donc j'avais pensé peut-être ça... Tu as demandé à Alain qu'est-ce que ça représente pour toi, adaptation. Pour moi, c'est... plus d'impact pour toucher un plus grand public avec notre histoire. Puis les enjeux, les thèmes, les questions dans nos livres, d'après moi, c'est très pertinent dans notre société actuelle pour les familles modernes, les enjeux de rôle de genre, puis aussi le rôle de père dans les familles. Donc, si, mettons, on réussisse de tourner un film avec nos personnages, ça va toucher un plus grand public, ça peut être traduit dans plusieurs d'autres langues, ça va peut-être encore répandu dans le monde. Pour moi, c'est la raison pour laquelle j'ai été vraiment ravi d'être sélectionné pour Shoot the Book.
Surtout que depuis les 15 dernières années, ce qui était d'abord une tendance est devenu une réalité. C'est-à-dire que Netflix, pendant des années... aller chercher directement des bandes dessinées qu'ils adaptaient à l'écran, se disant ben on a un fonds de commerce parce que les gens l'ont lu, parce que les gens l'ont suivi. Donc, mais évidemment, ce que ça implique de rejoindre un plus vaste public, c'est aussi de faire des concessions parce que c'est pas du tout le même médium. La bande dessinée, le cinéma, même s'ils entretiennent des liens, certaines passerelles sont jetées, c'est quand même deux médiums qui sont très différents du fait qu'il y a l'image fixe. Et il y a l'image qui bouge.
Ouais, mais aussi, au final, là, 2 ans plus tard, c'est le livre qui continue de faire le chemin, puis se propager pour rejoindre un plus grand public. Parce que je sais que vous avez des projets d'adaptation qui ont découlé, mais je pense que c'est l'impact aussi de votre histoire, votre présentation, qui a créé un buzz après, puis que ça vous a apporté un agent qui a vendu votre livre à plein d'endroits. Fait que ça, c'est quand même... Je pense qu'il y a une force... Tu sais, on peut parler d'adaptation cinéma, mais votre choix de faire de la bande dessinée, c'est ça qui a débloqué tout.
Et il y a même des retombées, même si à ce jour, il n'y a pas eu un coup de manivelle ou il n'y a pas eu une équipe technique pour capter une première scène. Il y a vraiment des retombées concrètes à cet exercice-là auquel vous vous êtes plié, là, c'est-à-dire de...
Oui, pour pouvoir parler.
Oui, oui, c'est ouais. sûr. Mais c'est, même s'il n'y a pas un film qui se fait jamais, on a quand même réussi à faire beaucoup plus que ce qu'on imaginait avant qu'il sorte, avant qu'on ait un éditeur. On a travaillé 6 ans et demi sans avoir d'éditeur à peu près. Je pense qu'on l'a, ça a été officialisé.
Ouais, ben, je disais un publisher, on pourrait dire. Parce que moi, j'étais avec vous autres de. Je oui. sais pas combien de temps, ça a été. Le temps a passé vite, mais ça a été quelques années.
Oui, oui, non. Marc, tu as travaillé longtemps.
Je me souviens même pas quand est-ce qu'on a commencé. Je me souviens la première fois qu'on s'est rencontrés. Puis ça, je trouvais ça le fun parce que tout de suite, je dis Alain, il connaît Jean-Claude Amignot, il connaît Alexandre Lafleur. Il a publié de la BD en ce temps-là. Puis c'est qui ce gars-là, Alain Chamarier? Tu sais. Puis là, Marc, ben, tu sais, c'est le fun. On dit genre, Marc, c'est tellement un bel humain. Fait que, tu sais, c'est le fun. Puis là, Alain, tu sais, moi, j'étais là, je regardais Alain. Pis c'est, oh my God, Alain, ah, peut-être, tu sais, si tu veux te faire connaître un petit peu avant, j'ai quelque chose à te proposer. Puis c'est à partir de là qu'il a embarqué dans l'évêque.
Il faut que tu dises, oui, voilà, René Lévesque, ouais. quelque chose comme un grand homme.
C'est ça. Il a fait un de mes chapitres favoris, celui sur, quand il était là en Corée, là.
Oui, et qui a signé la couverture de l'album ouais. aussi, l'illustration de couverture.
Ouais. Ça, c'est sûr que ça a été un gros, gros coup de pouce. Mais je voulais juste parler en termes de maison d'édition avec contrat signé ouais, c'est ça. Et tout
mais
ça.
Mais des fois, l'idée d'éditeur, le ouais. terme est tellement... Ouais, ouais, ouais. On dirait qu'il manque de... En anglais, c'est publisher, editor. Fait que t'as un publisher puis t'as l'éditeur. Ouais. Mais en français, t'as pas ça. Peut-être c'est un symptôme, je sais pas. L'éditeur, il fait ça. Mais tu sais, on est à Angoulême, il sort 100 quelques livres qu'il nous a dit par année. Tu sais, il peut plus superviser tous ces 100 livres. Ouais. L'éditeur,
le publisher.
Moi, le publisher. Fait que t'as des gens qui travaillent individuellement avec certains projets, puis ils amènent, puis ils accompagnent les auteurs.
Alors là, on tombe dans une logique de consortium, de groupe d'éditeurs, ou encore comme aux États-Unis. C'est-à-dire que, par exemple, dans le comics, si vous avez Spider-Man, par exemple, ben, si le personnage a 7 séries différentes, ben, chacune des séries est pilotée par différents éditeurs, et il y a un ou une chef qui supervise l'ensemble du tout. Qu'on appelle en anglais un script doctor.
Ouais. C'est la même chose en télé. Ouais, c'est vraiment le modèle de la télé. C'est
exactement.
Qui ouais. est appliqué au... Ouais. Puis, j'avais parlé il y a 2 ans à un éditeur québécois qui a repris la revue, la version anglaise de Metal Hurlant, Heavy Metal, et qui faisait lui-même aussi... qui publiait du comic. Ouais. Et il me disait qu'il faisait beaucoup d'argent, mais que 70% de son lectorat n'ouvre jamais le livre. Il ne regarde pas la bande dessinée, il la garde...
Ah ben oui, parce que c'est un objet de collection.
En espérant qu'il y ait une adaptation cinématographique et que la valeur augmente. Alors donc, il fabrique des objets qui ne sont pas utilisés pour ce à quoi ils sont supposés d'être, au cas où que ça devienne un film. Fait que là, ça c'est un autre modèle... Je pense pas que nous, on a pensé à ça. On a juste pensé non. à... On a une histoire à raconter.
Jean-Pierre Largis, c'est loin de ça. C'est presque à l'opposé complet.
Oui, parce que c'est long. Puis on s'en est rendu compte en le faisant lire, d'ailleurs beaucoup par toi aussi, que ça... Comment dire? Ça fessait plus fort qu'on pensait. C'est-à-dire que nous, on se disait, on raconte nos vies, on est assez... on a assez de distance pour être capable de raconter les choses de façon très, très nue, très, très ouverte et vulnérable et très honnête, même dans les verrues puis tout, non? Le côté pas beau. Puis, c'est dans un souci de raconter l'histoire le plus honnêtement possible, mais on pensait pas que ça allait avoir le genre d'impact qu'on a vu. Puis que tu nous as fait changer la fin pour que, justement, on soit pas désespéré à la fin puis qu'on ait un sentiment que les choses allaient mieux. Alors que moi, j'avais décidé de couper ça au tout début de savoir que ça commence un petit peu mieux, c'est fini.
Mais c'est un choix... C'est très judicieux, Marc, d'avoir poussé pour cette idée-là parce qu'on a besoin de lumière à la sortie, on a besoin d'espoir à la sortie d'une œuvre comme ça. Parce que ça nous permet à la fois d'entrevoir une guérison, ou en tout cas une réflexion. Alors que, en se terminant mal, Ben, c'est la fatalité. C'est comme les tragédies grecques.
puis déjà, des gens disent qu'eux autres, ils trouvent que ça finit pas nécessairement bien. Fait que ça, je trouve ça particulier. Là. C'est comme, qu'est-ce que si vous voulez, happy end, tout le monde est heureux, on se donne des gros becs, tu sais.
Mais c'est ça.
C'est un cheminement, tu sais. On arrête que les personnes ont entrepris un cheminement de guérison, puis déjà, tu sens qu'il y a des effets positifs. Fait que as-tu besoin d'aller plus loin? C'est là, c'est dit, c'est parfait comme ça.
Parce que notre message, c'est pas que les gens sont heureux après. Le message, c'est que l'important, c'est d'entreprendre un travail de guérison. C'est ça qui compte.
J'aimerais juste retourner sur le sujet de retomber du projet. Mm-hmm. Puis, tranquillement, pas vite, il y a des gens qui travaillent pour des OBNL, qui soutiennent les familles en crise, qui soutiennent des hommes en crise, qui viennent nous voir pour acheter notre BD, pour demander une dédicace, des fois de nous inviter. Puis pour moi, ça compte beaucoup, ces gens mettons, d'avoir notre livre dans la bibliothèque de la maison des liens familiaux à Paris. C'est un service de médiation familiale, des visites supervisées entre des pères puis ses enfants. Ils ont perdu le contact avec. Puis, ils utilisent notre travail un peu comme une source de réflexion. Je ne dis pas que c'est un guide ou nous, on ne présente pas des solutions, on n'est pas des coachs de paternité, de tout, loin de ça. Mais c'est intéressant parce que notre livre, ça peut provoquer des réflexions. Puis moi, un lecteur ciblé pour moi toujours était mon frère. Pour le livre, parce qu'il y avait des choses que nous, on n'a jamais abordées. Mon frère, lui, il a grandi à part de moi avec mon père, puis moi, j'ai grandi avec ma mère. Mm. Puis il y avait des questions que je n'ai jamais posées à lui, il y a des discussions. Mais dans le livre, Alain et moi, avec la fiction, on a créé des scénarios, des scènes, pendant que le personnage après mon frère et le personnage après moi, ils parlaient entre eux. Puis récemment, avec la publication de notre livre « Clay-Footed Giants » en anglais, mon frère, il a finalement eu la chance de lire notre BD. Puis au début, il a dit « Ah, sa femme a aimé le livre. » Il a dit « Ah, il est fier de nous, mais il a jamais partagé ses impressions. » Mais finalement, il y a comme une grande ouverture. C'est comme on a brisé la glace grâce surtout à Alan, parce que ils ont développé des liens. Alain a assisté aux funérailles de mon père à Saint-Louis. Puis mon frère et Alain, ils s'entendent très bien. Puis l'ouverture d'une nouvelle relation, une relation est possible avec mon frère, c'est grâce à ce livre-là. Là. Pour moi, c'est assez grand comme retombée.
Ben, en fait, c'est ça, c'est que ça va au-delà de toutes les espérances.
Ouais.
Parce qu'au final, on revient toujours au fondement même de l'art. L'art, c'est pour grandir, c'est pour réfléchir, c'est pour
bouleverser,
ému, pour être transformé. Et comme quoi aussi, l'autofiction ou l'autobiographie a tout autant ses lettres de noblesse, même si c'est un genre qui a été, les deux dernières décennies, énormément fréquenté et de toutes les manières inimaginables.
Oui, mais oh, OK. Mais en littérature, c'est un genre qui existe depuis longtemps.
Ah oui, bien sûr.
Pour moi, c'est un miroir. Est-ce qu'on arrête de se regarder dans le miroir? C'est complètement débile qu'il y ait un mouvement anti ça. Puis moi, j'ai tout le temps senti que c'est des artistes qui ont peur de s'exprimer, de s'affranchir, de dire « Oui, je mets du moi dans mes œuvres. Oui, je suis dedans. » C'était une résistance. Non, non, on veut... Puis, je pense on a parlé avec l'éditeur, ou je pense avec Menu, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent que la BD soit une BD de série commerciale, de divertissement. Fait que là, quand on arrive devant ça, il y a une résistance. Là.
Oui, mais Marc, dois-je te rappeler que l'autobiographie a vraiment traversé de l'autre côté du miroir et c'est devenu un incitatif financier pour des structures éditoriales. Et il y a des gens qui n'avaient absolument rien à raconter et qui se sont mis à faire de l'autobiographie. Je veux dire, ça a quand même heurté le genre aussi.
Oui,
c'est pas parce qu'un récit est autobiographique qu'il est exempt de critique et qu'il est automatiquement mieux
Oui, mais on ne parle pas de tout ça. C'est pour ça qu'on a besoin de médiateurs qui nous montrent les meilleurs exemples. Parce que c'est sûr que dans toute chose, il y a des choses mauvaises. Ben puis il y a des trends. Les gens, oh, on parle de moi, je vais parler de moi. T'sais. Moi, je me rappelle, j'ai vu des demandes de bourse. Le gars, il dit, je veux faire comme Paul, mais là, je vais aller voyager en Europe pour tout retrouver mes origines. Je me dis, OK, ouais, mais c'est pas tellement louable parce que tu veux faire comme lui pour faire un voyage, pour parler de toi. T'sais.
Mais je pense aussi qu'à la base, il y a une pulsion, il y a un désir de vouloir communiquer quelque chose. Et moi, je l'ai tout de suite senti dans votre album. Où on n'est pas dans l'anecdotique, où on n'est pas dans le repli de soi. Au contraire, on est dans l'ouverture. Pour moi, cet album-là, c'est une main tendue. Et à ce moment-là, là, on est dans la noblesse du geste autobiographique. On n'est pas dans l'anecdotique. Tout à coup, l'aspect universel apparaît parce qu'on se sent concerné. Puis parce que c'est un album aussi qui est de son époque. Tu sais, cet album-là, il y a 25 ans, aurait-il pu exister? Probablement. Aurait-il trouvé un si vaste public? Probablement pas. C'est-à-dire qu'il y a sûrement des structures éditoriales qui n'auraient pas pris le risque, parce que ça aurait représenté un risque. Moi, quand je vous ai lu, j'ai été bouleversé, parce que comme homme, je me suis dit... J'ai eu cette impression, et je vous l'ai dit, messieurs, que cet album-là avait été fait pour moi, comme si vous m'aviez chuchoté à l'oreille tout le long de ma lecture. Et alors que j'étais dans un questionnement sur la colère, sur aussi la masculinité toxique, sur le pardon, se pardonner soi-même, pardonner l'autre, d'accepter de se regarder... Même si ce qui est reflété face à nous ne nous convient pas ou ne correspond pas à l'image qu'on se fait de nous-mêmes. Donc, à ce moment-là, moi, je considère que un récit de cette densité, de cette qualité-là, fait œuvre utile. Et c'est pour ça, je pense, que votre livre tombe à point nommé. Et que si des organismes et que si des gens sont dirigés vers votre travail, c'est qu'on en avait besoin.
Au début, premièrement, je suis content que tu ne nous as pas vus pendant qu'on chuchotait dans tes oreilles pendant que tu lisais le livre, parce que ça serait malaisant.
Ouais.
Dès le départ, quand on a commencé à travailler sur le projet dans ses premiers balbutiements, je me rappelle d'être allé à une réunion, un repas avec les membres de la maison d'édition, le Cheval Doux. Et de parler à l'éditrice, puis elle me dit « Qu'est-ce que tu fais comme projet en ce moment? » « Tiens, je viens de partir un truc avec un ami, on fait un livre sur la paternité et pourquoi, tout à coup, quand on devient papa, les hommes, souvent, on se comprend même plus nous-mêmes. On a des comportements qui nous sortent du passé, qu'on pensait qu'en se définissant à contrario de notre père ou du modèle qui nous a fait mal, que tout allait être réglé. Et bien non, pas du tout.
Non, pas du
et
tout.
Même à l'inverse.
Ouais.
Et en lui parlant de ça, tout de suite, j'ai vu que ses yeux se sont allumés. Et elle a fait, oui, moi je veux que ce livre-là existe et je veux le lire. Parce que je veux comprendre mon chum, je veux comprendre mon père, je ne comprends pas ces gens-là, et tu viens exactement de nommer...
Et de les amener à se comprendre eux-mêmes.
Ben, c'est ça.
Voilà.
Idéalement, c'est ça.
C'est ça.
Fait que c'est sûr que ça aide qu'on se soit dit dès le départ, « OK, c'est une histoire qu'on a envie de raconter, puis en plus, qu'on a des confirmations que les gens ont envie de l'entendre. » Même si c'est pas évident, disons.
C'est intéressant, Jean-Dominique, et merci beaucoup pour le compliment tantôt que toi, tu as eu l'impression que le livre était fait pour toi, parce qu'on a eu exactement le même commentaire des femmes le même âge que ma mère et des jeunes filles, des jeunes gars, adolescents. Donc, ça me fait vraiment... Ça chauffe le cœur d'entendre les commentaires comme ça. Parce que dans le livre, c'est un gars de quasiment 7 pieds, avec des lunettes, qui est vraiment coincé, qui fait toutes sortes de gaffes, qui ressemble un peu à moi dans ma vraie vie. Puis si quelqu'un qui est vraiment à part de moi se sent que c'est des mêmes enjeux, des mêmes questionnements, c'est vraiment chouette parce qu'on a tombé dans le universel, qui était le début au départ. pas juste de chialer de notre problème, de nos blessures, nos bobos du passé, mais de passer à travers en creusant vers la profondeur de notre situation d'aujourd'hui.
Ben oui, c'est parce qu'il y a l'universel puis il y a l'anecdotique. L'anecdotique, c'est de penser que notre vie vaut plus que celle de l'autre et qu'elle mérite d'être racontée. Après, c'est défendable. Ceci dit, je ne suis pas là pour faire le procès de l'autofiction, de l'autobiographie, mais comme c'est un genre qui a été beaucoup visité ces dernières années, et qu'il y a des gens aussi qui se refusent à lire ce type, parce qu'on parle d'un genre, est-ce un genre? Je ne veux pas tomber dans ce débat-là non plus, mais il y a des gens, il y a des lectrices et il y a des lecteurs de bandes dessinées qui ne veulent pas, aborder ce type de matériau-là.
Je pense qu'il y a une incompréhension de ce que c'est de raconter une histoire, parce que dès qu'on raconte une histoire, on se raconte, d'une manière ou d'une autre.
Ah ben oui.
Dès qu'on fait... Moi, je me suis rendu compte, mais en art visuel, c'est pareil. Dès que tu fais un tableau, tu vas vouloir dessiner une fleur, puis ta fleur va sortir exactement comme ton état d'esprit te le dicte inconsciemment sans que tu t'en rendes compte. Alors, pour moi, ceux qui croient qu'un livre, parce qu'il est de fiction séparé de l'auteur, ne parle pas de l'auteur... Ben, je pense qu'il se trompe. Je pense qu'il se raconte beaucoup plus qu'il pense. Et il se raconte beaucoup plus, je dirais pas sans contrôle, mais sans être conscient de ce que tu dis, tu vas des fois déformer les choses. Tandis qu'en étant conscient que tu vas te révéler, tu peux... aller à l'essence des choses.
Ben, un des exemples pour moi forts, c'est le plus récent album de Jimmy Beaulieu, Jardin des complexes, qui est paru aux éditions Nouvelle Adresse, qui est un assemblage de fragments. Et bien que une bonne partie de l'album soit du côté autobiographique, le récit qui clôt l'album... Jimmy a fait le choix de ne pas se représenter dans le récit. Et pourtant, c'est de loin cette portion-là qui est la plus intime et qui est la plus révélatrice de l'état d'esprit de Jimmy. Et c'est troublant. C'est parce fascinant. Qu'on se dévoile dans la fiction.
Oui, tout le temps.
Alors que dans l'autofiction ou dans l'autobiographie, on cherche beaucoup à préserver... Mm-hmm. En tout cas, du moins l'entourage, parce qu'on ne veut pas déclencher d'animosité dans notre entourage.
C'est plus dur.
Alors que dans la fiction, on a le champ libre.
Mais dans Géant, il y a les outils de la fiction utilisés de la meilleure façon possible. Comme on voit qu'il y a tout le temps... C'est ça que je dis, quand tu lis le livre, pour moi, c'est tu suis une enquête. Tu suis le personnage principal, puis il cherche quelque chose, une quête. Dans le fond, c'est une quête. Puis, et c'est une quête, mais avec les instruments, les espèces d'outils du roman policier, quelque part. Puis, je trouve ça intéressant, c'est ce mélange-là.
Mais du documentaire aussi, hein, parce que tu parlais du documentaire tantôt, et il y a cet aspect-là, je trouve, dans la construction, et ça m'aide à comprendre ce que j'avais pas saisi jusqu'à présent.
Mais c'est ça, ça vient de Marc Puellin. Mm-hmm. Dans le fond, c'est leur nature commune, puis l'amalgame a fait quelque chose d'unique. Puis moi, quand j'ai lu l'histoire la première fois, je me suis dit, cette histoire-là, j'ai jamais lu quelque chose comme ça. Pour moi, c'est de la bande dessinée mature qui est importante, qu'il faut que ce soit compté, comme avec l'Iroquois, le retour d'Iroquois de Rémiard, qui disait qu'il était plus capable de ça, il trouvait que c'était de la merde. Je dis, ben non, c'est important ce livre-là, il y a quelque chose là-dedans qui s'est jamais été fait, puis il faut que ça se fasse, tu sais. Fait que des fois, moi, c'est des gens comme ça qui s'y viennent, j'ai pas le choix de les aider, tu sais. C'est comme, parce qu'il y a quelque chose là qui est unique, particulier, qui est beau, qui est important.
Mais c'est le signe de la maturité de notre bande dessinée. Et de sa santé aussi, dans sa diversité, dans sa portée. Et je trouve que votre album, c'est une claque. J'ose espérer que des aspirants et des aspirantes autrices, des aspirants auteurs de bande dessinée aussi vont lire cet album-là dans une perspective de tenter de comprendre qu'est-ce que c'est la construction d'un récit et comment le médium de la bande dessinée et de la lecture qui est infiniment intime. Parce que quand on va au cinéma, on est en groupe quand on va au théâtre, on est en groupe quand on écoute Netflix à la maison, on peut l'écouter seul, mais il y a quand même une distance avec l'appareil, même si vous l'écoutez sur votre tablette ou votre téléphone. Une bande dessinée, il y a un rapport tellement intime, et j'ose espérer que cet album-là est lu aussi par des gens qui s'intéressent et qui souhaitent explorer ce médium-là, parce que je trouve que c'est en soi un enseignement de la bande dessinée.
Tabouir.
C'est mon expérience de lecteur, ça vaut ce que ça vaut, là.
Mais
c'est des grands mots pour le premier album de deux inconnus.
Vous avez un background,
tu as fait des documentaires, tu as réalisé. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes deux hommes matures aussi. Vous n'êtes pas deux petits jeunes de 20 ans, là. C'est pas pareil, là, tu sais. Fait que vous apportez tout ça avec vous autres. Fait que ça fait une différence en partant.
Mais à 20 ans, je pense pas qu'on aurait été... En tout cas, je vais parler pour moi. Je pense pas que j'aurais été capable de me dévoiler ou... de comprendre que les histoires qui sont les plus authentiques, c'est celles qui sont les plus dures, qui vivent dans la portion cachée, qu'on veut cacher de nous-mêmes. Puis ça, je l'ai appris, entre autres, grâce à Danny Lennon, de Prends ça court, qui est le pape du court-métrage au Canada, et qui est reconnu, on est allé à Cannes, puis tout le monde venait le voir avant d'aller au pavillon du Canada. C'était pour savoir ce qui se passe au Canada, c'était Danny Lennon. Puis je l'ai entendu souvent parler aux jeunes, puis leur dire, les bonnes histoires, c'est les histoires cachées, c'est la partie sombre de qui vous êtes, c'est ce que vous... Puis sombre, pas dans le sens sombre comme les récits de Dracula, où c'est vraiment la partie sombre, la honte. Les choses qu'on ne veut pas montrer, notre tendresse qu'on a honte d'avoir parce qu'on est des adultes, tout ce qui... Ça peut être n'importe quoi, c'est tout ce qu'on ne veut pas présenter aux autres parce qu'on a peur, d'être vulnérable face à l'autre. Et puis, dès qu'on dévoile ça, automatiquement, tout le monde fait comme « Oh, phew! Je suis capable d'y avoir accès. » Peut-être pas à travers moi-même, mais à travers quelqu'un d'autre. Puis ça, je pense que c'est la valeur du risque qu'on a pris. Puis je me rappelle encore, ça me rappelle... au départ, dans l'histoire Géant Pied d'Argile, les débuts, c'était trois papas. Il y avait le papa Marc, le papa Alain, et un troisième papa fictif qui s'appelait Ghislain, qui, lui, était dans le fun parce qu'il y avait tous les défauts du monde. Puis il était riche, il était vibrant. Tout ce qu'on ne voulait pas dire sur nous-mêmes, on y avait dompé dessus.
Il était pas un peu cartoon, par exemple?
Il était un peu plus cartoon, il était un peu plus caricatural, un peu plus stéréotypé. Mais nous, en comparaison, on était plate. Parce qu'on voulait présenter un côté de nous-mêmes qui était plus gentil envers nous-mêmes.
On présentable.
Plus présentable avec les invités. Puis, à un moment donné, plus le projet s'est développé, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'on pouvait raconter l'histoire d'un papa et demi. Que trois, ça allait être ben trop long, on allait avoir 300 pages à faire. Le livre fait 250 pages au final. Mais dans ce temps-là, je me disais...
500.
C'est ça. Ça doit être ça. Fait que j'ai demandé à Marc s'il était d'accord qu'on fasse un récit principal qui est son histoire familiale, puis qu'au lieu que mon récit familial soit équivalent, que le mien, on s'en serve soit en contrepoids, en contrepoint, ou pour... pour venir souligner quelque chose, un comportement qu'on voulait que les gens comprennent que wow, c'est pas juste singulier, c'est quelque chose de social, ça arrive à plusieurs personnes. Puis cette rencontre-là, je sais que ça n'a pas été facile pour Marc parce que ça voulait dire « Oh non, je vais présenter exactement comment ma famille est. » Puis, puis je me rappelle quand je lui ai dit que je le savais que ça allait être tough. Puis j'ai essayé de te le présenter le plus doucement possible. Je ne sais pas si tu as envie d'en parler.
Mais je pense que c'était une bonne décision, mais ça prend des années pour nous d'assumer notre personnage. Puis au début, c'était douloureux. J'avais honte. Puis au début, le premier texte que j'ai écrit, j'ai partagé sur un blog sans nom, parce que j'avais vraiment honte. Puis je n'ai pas parlé de toutes ces histoires avec ma famille, avec mes amis. Puis, mais j'ai montré à Alain. Puis Alain, il était très réceptif. Puis lui, il a parlé de ses propres blessures, de ses propres défis, enjeux dans sa vie, puis il y a au moins une autre personne qui se sent un peu comme moi dans le monde, c'était rassurant. Ça me donne beaucoup, c'est comme une boost de confiance. Puis il a montré à ses amis dans le studio d'artistes, puis eux aussi, ils sont venus me voir, puis ils ont dit « Marc, le texte, ça m'a vraiment touché », puis ils ont partagé leur vécu. Donc nous, on a eu comme un avant-goût de qu'est-ce qui arrive presque chaque fois on fait des dédicaces. Le monde vient et ils partagent leurs propres témoignages, qu'est-ce qu'ils ont vécu, leurs défis, puis c'est vraiment touchant. Puis moi, c'est sûr que le livre, c'est au-delà de nous, au-delà de nos vies, de nos histoires, de nos problèmes, là. C'est universel, puis ça fait de bien le fait qu'on peut être tout nu devant des inconnus, même à la France, même à New York, même à Montréal, et se sentir en sécurité. Parce que depuis longue date, c'est des choses qui étaient la cause de beaucoup d'anxiété et de honte, chez moi au moins.
Puis là, c'est transformé en un objet dont on est fier.
Oui, parce que vous avez à la base fait le travail. Ouais. Sur vous-même. Sinon, cet album-là n'aurait pas existé dans sa forme.
Oui, je ne pense pas que c'est possible. C'est dur d'aller profondément dans un... Si ton passé est difficile, c'est dur d'y aller tout seul parce que tout ton corps et toute ta psyché va te dire « Non, va pas là, dude. Ouais. C'est pas une bonne place où aller. » Fait que de commencer à faire un travail, ça exige de connaître ses propres limitations, puis un accompagnement, que ce soit un accompagnement psychologique, idéalement, ça permet d'aller visiter ces places-là avec quelqu'un qui te tient la main et qui te dit « ça va être correct, s'il y a quelque chose, je suis là ». Et j'ai déjà accompagné d'autres personnes et je suis capable de dire les bonnes choses au bon moment, quand tu vas avoir peur, quand tu vas avoir mal, quand tu vas... Parce que c'est vraiment aller marcher dans un gros buisson avec des grosses épines.
Oui, d'où l'expression anglophone « hug de cactus », là, tu sais, « embrasse ton cactus ».
Oui, ça ressemble un peu à ça, ouais. Oui, puis en même temps, ce qui fait le plus peur, c'est l'inconnu. On préfère souffrir de choses familières que d'aller vers l'inconnu. T'as coup que ce soit pire, alors qu'on sait très bien que dans les faits, ça a été prouvé par plein de monde, t'améliores ton sort quand tu vas chercher de l'aide en général. Et pourtant, la peur est tellement légitime que jamais tu peux dire à quelqu'un « Hey, toi, va consulter. » Ben, on peut pas, parce que la personne, si elle a légitimement peur de faire ça, ça ne marchera même pas. Alors donc, l'idée que ça doit être non seulement un pas qui est volontaire, mais que c'est épeurant que le diable, et que ça se fait pas sans douleur, c'est sûr que c'est pas comme aller au sauna. C'est pas le spa. Il y a personne qui va y aller à moins de sentir que c'est la seule option. Que le reste, ça peut éventuellement mal virer. Puis c'est un petit peu ça, là, dans le livre qu'on voulait dire aussi, c'est que ces hommes-là qui essayent de s'occuper des autres, qui sont incapables de s'occuper d'eux-mêmes correctement parce que générationnellement et en termes de genre, les hommes, on n'est pas du tout équipés pour ça. Il n'y a personne qui nous dit quand t'es petit, « Hey, toi, tu vas être bon pour t'occuper de toi, petit gars. » Ou « Tu vas être bon pour t'occuper des autres. T'as été vraiment attentionné. » Quel petit gars qui se fait dire ça, hein? « Tu vas être un bon papa, t'es vraiment capable de te... » Il n'y a personne qui dit ça. Il faut que tu sois fort, il faut que tu sois... Ça reste encore aujourd'hui les valeurs qu'on pousse, alors que dans les faits, c'est ce qui nous détruit à long terme. Fait que... Ouais, je pense que le fait qu'on soit permis d'aller dans ces endroits-là de nos vies où on n'est pas beau, où on fait des conneries, où on répète des erreurs des autres, mais qu'on s'en rend compte, qu'on essaye de réparer, que ça marche pas, puis qu'on finit par comprendre que si tu fais pas le chemin pour de vrai, tu vas toujours trouver une excuse pour tes propres erreurs. Ben, ça donne un peu l'espoir aux gens que s'ils font le chemin, ça se peut que ça aille mieux après. C'est un peu toujours dans le pessimisme parce que je parle beaucoup de la douleur de la démarche, mais c'est vrai qu'il y a de la lumière à la fin. Puis c'est pour ça que l'idée d'avoir un épilogue qui est lumineux, où on voit les gens qui vont mieux, qu'on voit qu'il y a un chemin qui a été fait, même si ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que ce n'est jamais fini.
Non, voilà.
Il y a quelque chose qui est vraiment intéressant avec la sortie de notre édition en anglais. Joe Omen, il a écrit, il a nous donné le plus beau cadeau. Il a écrit une préface, puis il a dessiné une croquis. Puis lui, il a souligné l'amitié entre moi et Ellen. Parce qu'il y a 2 ans, on est venu à Angoulême, puis Joe Omen était là. Marc Tessier nous a présenté. Puis Joe, il nous a observé, puis lui, il est très sage. Il est beaucoup plus expérimenté que nous, puis il est père et grand-père. Puis lui, dans sa préface, il a dit, Marc et Ellen, ils soutiennent, ils donnent du soutien à une l'autre, puis grâce à ça, ils deviennent des meilleures personnes. Puis moi, je suis vraiment reconnaissant à Ellen pour cette amitié. Puis c'était les vendredis. Nous, on a passé tous les vendredis ensemble. C'était la seule journée de semaine qui était libre pour nous de travailler ensemble. Puis on a passé tous les vendredis depuis 6-7 ans. Là. Puis c'était ma journée préférée de la semaine. Parce que j'étais tout excité comme un enfant dans une sortie scolaire avec ma boîte à lunch. Avec,
avec en fait, c'était le sandwich à l'omelette. En
sandwich, général. Exact. Ouais. Puis, c'était vraiment agréable de travailler ensemble. Mm. Puis le fait que... c'est un peu comme... C'est pas que j'ai oublié ça, j'ai pas que j'ignore. C'est juste que Joe, avec son point de vue extérieur et son expérience, il a dit, écoute... c'est pas juste un livre qui est le fruit de votre travail, c'est aussi le fait que vous êtes 2 hommes, amis, vulnérables entre les autres, puis capables d'exprimer vos émotions, puis être toutes vulnérables. C'est vraiment quelque chose, je suis vraiment fier de ça. Puis l'autre jour, on a été invités dans une cégep, puis... après notre discussion, dans les commentaires écrits que le prof nous a envoyés, il y avait beaucoup de gars dans le cours qui l'ont dit. Ça m'impressionnait beaucoup le fait que vous êtes 2 gars qui n'ont pas peur d'être comme vous êtes. Puis moi, j'aimerais vraiment trouver une amie comme toi et Ellen. Wow. Ça m'a touché vraiment beaucoup. Là.
Ouais, parce que c'est pas évident de partager ce qu'on a partagé parce que on a montré ce qu'on avait de plus fragile. Mm. Puis en croisant les dents que l'autre allait pas taper dessus, ou en tout cas, parce que malgré la meilleure volonté, si quelqu'un reçoit quelque chose qui lui fait mal, son premier réflexe, ça va être de taper dessus. Mm. Alors, fallait vraiment qu'on se fasse confiance que ce qu'on allait se dire ou ce qu'on allait créer n'allait pas être utilisé contre nous. Puis on arrivait là tous les deux aussi avec nos imperfections, puis créer à deux, c'est faire des compromis, c'est essayer de se comprendre. Puis moi, j'en ai retiré beaucoup, beaucoup au niveau de la passion et la régularité avec laquelle... Je suis rentré dans une autre ligue au niveau du travail. Puis ton expérience, Marc, comme joueur de basket, je suis sûr que c'est en partie derrière ça. On avait toujours nos moments. C'était sacré, c'était important. Il ne fallait pas manquer une pratique. C'était vraiment comme si on a un gros match à la fin, là, puis on a des pratiques pendant 7 ans.
Faut pas perdre le rythme.
Faut pas perdre le rythme, parce que sinon, ça peut s'en aller. La discipline, la qualité du travail, la qualité de l'importance du temps. Bon, on savait que notre temps était limité, fait que dès que ça... Moi, je suis très bon pour faire partie d'une conversation à droite, à gauche ou au centre. Puis c'était tout le temps Marc. Et si on revient à notre histoire? Oui, c'est vrai, Marc. Oui, revenons à notre histoire. Mais c'est ça qui a fait que le livre existe. Et j'en suis éternellement reconnaissant à Marc parce que ça m'a permis de revenir dans un milieu que j'avais délaissé il y a longtemps, celui de la bande dessinée, et de faire quelque chose qui est beaucoup plus gros que ce que j'avais pensé. Là. Écoute, un livre de 250 pages, ça n'a pas de bon sens.
Ben, en tout cas, messieurs, encore une fois, au risque de me répéter, et je l'assume, vous avez toutes mes félicitations. C'est un livre très, très important que vous avez fait. Et sa longue vie en témoigne, et j'ai envie de dire que ce n'est que le début. Merci beaucoup pour... Merci beaucoup pour ce courage, pour ce livre si important et un livre qui s'adresse au plus grand nombre. Alors, j'espère de tout cœur que si vous n'avez pas à ce jour lu « Géant au pied d'argile », que vous allez, cher public, y remédier le plus rapidement possible. Alain Chevarier, Mark McGuire, Marc Tessier.
Yeah.
Messieurs, merci beaucoup. Vous ne pouvez pas espérer de mieux terminer cette journée qu'en votre compagnie. Merci.
Merci Alain, merci Marc.
Merci Marc, merci Jean-Dominique, merci Alain.
Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre notre couverture du Festival Angoulême édition 2025, rendez-vous au jeandominiqueleduc.ca/tribune/catégorie/Angoulême-2025. Certes, c'est long, mais ça vaut le coup.